Galade 100.9.
Parlons équilibre. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parlons Équilibre, une émission préparée par l'association Équilibre et Moi, une association qui accompagne les personnes obèses et en surpoids dans le Beaujolais. 7 millions de Français, soit 17% de la population nationale, est en situation d'obésité. L'obésité se définit comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. L'obésité est reconnue comme maladie par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1997. Nous avons le plaisir de recevoir Corinne et Nathalie, adhérentes de l'association Équilibre et Moi, avec qui nous échangerons sur la maladie de l'obésité et nous donnerons leur point de vue et leur témoignage sur cette maladie très souvent stigmatisée. Bonjour mesdames.
Bonjour Nadjette.
Bonjour Nadjette.
Dites-moi, pour vous, l'obésité, qu'est-ce que c'est ?
Alors l'obésité, comme tu l'as dit, c'est une maladie, ce qui n'est pas forcément su par tout le monde. Mm-hmm. C'est assez récent d'ailleurs, tu as dit que ça datait de 1997. Et c'est une maladie qui fait qu'on peut être en surpoids, ou très 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 en surpoids, et ne pas pouvoir faire tout ce qu'on veut au quotidien, et s'empêcher parfois de faire des choses.
Oui. Donc il y a la maladie de l'obésité et le poids alors. C'est quoi le poids pour vous ?
Le poids pour moi, enfin pour moi et je pense pour une majorité des personnes qui sont en obésité, c'est une carapace, voilà, ça nous protège en fait. Souvent c'est lié à un problème ou psychologique ou de l'enfance. Donc je pense qu'il faut aller rechercher la cause de cette prise de poids. Mais oui, pour moi c'était vraiment une barrière. C'était une protection vis-à-vis des autres et du regard des autres.
Mmh. Et vous savez, le pourquoi devient-on obèse est propre à chacun. Savez-vous pourquoi et comment, justement, vous avez pris du poids ?
Alors oui, pour ma part, c'est très clairement identifié. Mes parents ont divorcé quand j'avais 11 ans et j'ai pris 10 kilos cette année-là. Et c'est 10 kilos qui ne sont jamais repartis et qui ont fait des petits, qui sont là depuis lors. Et en effet, ça a été une réaction psychologique à ce divorce et une façon pour moi de me cacher un petit peu, de devenir plus grande, de devenir plus forte, d'être forte pour pas être un poids. Le poids est encore là, pour ma mère notamment.
D'accord. Et ce problème psychologique a été identifié à cette époque ?
Alors, à cette époque, non. Il a été traité, puisque j'ai été très vite dans dans un hôpital pour perdre du poids, parce qu'on a vu tout de suite qu'il y avait un souci. Mais c'était purement, mécanique. Il fallait perdre du poids, mais on n'est pas allé chercher pourquoi.
D'accord.
Et c'est il y a quelques années, en faisant une psychothérapie, que j'ai découvert, en effet, mais bon sang, mais c'est bien sûr, tout vient de là.
Donc déjà, très tôt, vous avez fait des régimes. Combien en avez-vous fait et quels furent les résultats ?
Alors, les régimes, oui, j'en ai fait. Je ne peux même pas les compter sur les doigts de la main, tellement j'en ai fait. Alors, à chaque fois, au départ, c'est génial.
Ça marche,
c'est super. Mm-hmm. On est encouragé. Mais en fait, à chaque fois, on reprend peut-être quelques mois après ou voire une année après. On reprend beaucoup plus. Donc, on essaye un autre régime. Pas de protéines, pas de... Enfin, j'ai vraiment tout essayé. Et non, ça ne marche pas, en fait. Le régime, ça ne marche pas. Mm-hmm. Ça marche pas. Il faut que tout fonctionne et aussi dans la tête. C'est pas que de vider son assiette, de diviser son assiette par deux, de mettre autre chose dans l'assiette. Il faut aussi se vider la tête.
Oui.
Alors oui, pareil, impossible de quantifier combien de fois j'ai fait des régimes. Mais le plus marquant, c'était celui justement quand j'étais enfant, à 11 ans, où j'étais à 600 calories par jour. Et 600 calories par jour, pour vous donner une idée, c'est ce dont a besoin le cerveau pour fonctionner chaque jour.
Ah oui.
Donc voilà, à 11 ans, on envoyait un très bon message à mon corps. Tu vas manquer. Et débrouille-toi avec ça. Donc en effet, on perd du poids quand on ne mange plus. C'est vrai. Mais dès qu'on remange, et c'est normal de remanger, tout revient avec l'effet yo-yo. Donc on reprend ce qu'on a perdu avec un petit bonus supplémentaire.
Du coup, pensez-vous que la prise en charge psychologique est importante, justement, dans le traitement de l'obésité? On ne le savait peut-être pas dans les années 80.
C'est clair qu'on ne le savait pas.
Aujourd'hui, comment vous, obèse ou ancienne obèse, percevez-vous, justement, cette partie psychologique?
Alors, pour ma part, j'ai vraiment compris, quand j'avais à peu près 30 ans, que à force de faire des régimes et que les résultats ne soient pas là, qu'on maigrit, qu'on regrossit, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait que je n'y arriverai, que je ne peux pas maigrir, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai commencé une psychothérapie qui m'a permis, du coup, d'identifier le moment où ça a basculé pour moi et où je suis en effet devenue malade de l'obésité. Mmh. Et avec ça, ça enlève quelque part, on en revient avec ces expressions, ça enlève un poids. Mmh. Et ça m'a permis à l'époque de perdre pas mal de poids juste en rééquilibrant mon alimentation. Mmh. Et puis après, la vie fait qu'il y a des fois d'autres choses qui se passent et on peut être amené à reprendre du poids. Mmh. Parce que quand on souffre d'obésité, c'est pour toute la vie.
Oui.
Donc il faut savoir que c'est un combat permanent avec les kilos. Et je pense en effet, en ce qui me concerne, que l'accompagnement psychologique est primordial et nécessaire.
Oui, le fait d'avoir mis le doigt dessus vous a permis d'accepter
de déculpabiliser beaucoup, en fait.
Oui.
De se dire, ah ouais, mais en fait, moi, j'étais un peu programmée quelque part. J'ai une maman qui était obèse, etc. Donc, tout ça vient se rajouter. On se dit, ça enlève de la culpabilité, parce qu'on est plein de culpabilité aussi quand on souffre d'obésité, malgré nous.
Alors moi, au niveau du suivi psychologique, j'en ai pas éprouvé le besoin. Au départ, je mettais la faute sur moi. Je me disais que je grossissais parce que je mangeais trop. J'étais gros, c'était de ma faute. Et en 2013, on a diagnostiqué un gros problème thyroïdien. Et ça m'a fait prendre énormément de poids. Donc après, dans ma tête, je me suis dit, c'est la maladie, en fait. Mmh. Donc je me suis laissée aller encore plus, en me disant, voilà, finalement, c'est pas de ma faute, c'est la maladie. Mais jamais on m'a proposé d'avoir un suivi psychologique pour aller rechercher d'où ça venait exactement. J'ai pas eu cette possibilité-là. Donc j'ai vraiment d'abord tout misé sur moi et ensuite tout sur la maladie.
Vous l'auriez fait ? Vous auriez consulté un psychologue ou un psychiatre ?
Avant mon opération, j'aurais dit non. Aujourd'hui, je me suis fait opérer et j'ai besoin d'un psychologue, je dirais oui.
D'accord.
Je pense qu'il faut le faire.
Ouais. Vous savez que certaines personnes déchargent le côté psychologique dans des thérapies douces, comme la sophrologie, l'art-thérapie, la danse-thérapie. Ça peut être aussi une façon de se soulager psychologiquement.
Oui. J'ai plutôt suivi une hypnotiseuse.
D'accord.
Une hypnothérapeute, qui elle m'a beaucoup aidée.
D'accord. Et votre entourage, alors, comment percevait-il votre maladie, votre poids ?
Alors moi, mon entourage, ça a été très compliqué. Alors, je suis aussi d'une famille, comme tu disais, Corinne, de parents obèses. Dans toute la famille, il y a un gène de l'obésité. S'il existe un gène, je ne sais pas. Donc, du coup, avec mes parents, je n'ai pas eu forcément d'aide. Et puis après, avec le compagnon, la personne qui m'a accompagnée 30 ans dans ma vie, je n'ai pas non plus eu d'aide. Je pense que ça doit être très important. J'imagine que les personnes dont l'entourage prend conscience et ne sont pas dans le jugement, et plutôt dans donner un appui, la bienveillance, proposer de l'aide, ça doit être beaucoup plus facile que quand quelqu'un à la maison vous dit « si t'es gros, c'est parce que tu manges, t'as qu'à arrêter de manger ». En fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, c'est même le contraire qui se passe. Donc, moi, je n'ai pas eu vraiment de soutien.
Alors, moi, je pense que j'étais plutôt, dans un environnement bienveillant. Donc, avec une maman qui souffrait d'obésité, mais qui ne s'interdisait rien, donc qui vivait normalement. On est toujours allé à la mer, à la piscine, on profitait et on exposait nos corps sans que ça nous pose de problème, même s'il y avait des regards. Moi, c'est plus le problème de ceux qui nous regardent que le mien. En revanche, j'imagine très, très clairement que de ne pas avoir cette bienveillance-là rajoute à la difficulté que c'est déjà d'être obèse. Donc, moi, c'était plutôt bienveillant. Et ce travail psychologique, ça peut être en effet des gens qui m'ont... Qui, de façon bienveillante, m'ont dit peut-être que ça peut être bien de travailler sur ce point de vue-là et d'aller, mais c'est en effet des amis, de la famille, et pas spécialement le corps médical qui nous parle de ça.
Mais le meilleur entourage, celui qui nous aide le plus, c'est nos enfants. Aux yeux de nos enfants, on n'est pas gros. Mes enfants m'ont toujours dit « Mais maman, t'es pas grosse ». Mais ça, c'est du bonheur.
Ouais.
C'est du bonheur.
Saviez-vous, mesdames, que 62% des Français pensent que l'obésité est avant tout due à une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique ? Alors que ce n'est pas du tout une question de volonté, hein, clairement. Et lorsque, malheureusement, on pense obésité, aujourd'hui, on pense comportement. Et on pense, ma foi, qu'il faut faire du sport, qu'il faut manger moins pour, pour ne pas être gros. Et en fait, non, les causes sont plurifactorielles. Il y a par exemple les prédispositions génétiques, il y a les maladies pathologiques, endocriniennes, les traitements, tout ce qui est médicaments également, les événements de la vie qui nous font prendre du poids, les traumatismes de vie, clairement. Et il y a également les obésogènes, dans les aliments ultra transformés qui peuvent contenir justement des perturbateurs endocriniens. C'est important de le savoir, tout ça, parce que malheureusement, on ne le sait pas aujourd'hui encore.
Oui, c'est important. C'est vrai qu'il y a des régularisations, il faut se réguler au niveau alimentaire et faire du sport. Ça, c'est, mais ça, c'est valable pour tout le monde, en fait, pas que pour les obèses.
Bien sûr.
Et en effet, ceux qui souffrent d'obésité, ils vont surréagir et prendre du poids parce que justement en général les personnes obèses ont fait énormément de régimes et ont donc quelque part un peu envoyé des messages à leur corps, attention je vais te priver, et puis le jour où on remange, parce que c'est humainement parlant impossible de faire un régime toute sa vie, c'est humainement pas possible, donc quand on recommence à manger normalement, on parle même pas d'excès, le corps d'un obèse il va dire oulala, vite, je stocke. Des fois que ça lui reprenne de me mettre en carence et de m'empêcher de manger les prochains mois, je vais faire des réserves.
C'est ça.
Voilà.
Dites-moi, qu'est-ce qui est difficile de faire, voire quasi impossible, quand on souffre d'obésité ?
Je disais tout à l'heure, monter en courant les deux étages pour accéder à Radio Calade, ce n'est pas possible en ce qui me concerne.
Il n'y a pas d'ascenseur.
Donc, ou alors j'arrive et je suis sur les genoux et je ne peux pas respirer et je ne peux pas parler pendant une demi-heure. Donc voilà, j'évite de me mettre dans le rouge. Donc il y a en effet physiquement, en fonction de notre niveau d'obésité, des choses qui ne sont pas possibles. Tu en rajouteras tout à l'heure,
tout
Nathalie.
À fait.
Mais ce que j'avais envie aussi de dire, c'est qu'on a un petit peu tendance aussi, quand on souffre d'obésité, à s'empêcher de faire des choses. Et à se dire, non, ça peut-être pas, c'est pas pour moi. Voilà, il y a plein de choses qu'on s'empêche, ou qu'on pourrait ne pas s'empêcher, mais qu'on s'empêche souvent. Mmh. Mais il y a plein d'autres exemples de choses qu'en effet, physiquement, ou parce qu'on ne rentre pas dans des vêtements qu'on aimerait bien mettre, des vêtements un petit peu moulants, etc. On se dit, on va pas ou on peut pas parce qu'il n'y a pas notre taille. Ça aussi.
Exactement. Il n'y a pas que des choses qu'on s'interdit. Il y a vraiment beaucoup de choses, pas seulement l'activité physique, on ne peut pas faire. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est d'aller dans un magasin, de flasher sur un vêtement et on sait qu'on ne pourra pas se l'acheter, quoi qu'il arrive, le porter. De faire attention, on va aller s'asseoir. L'endroit, on va aller s'asseoir. Est-ce que je vais rentrer dans la chaise ? Est-ce que je vais tomber ? Moi, je pense que si, il y a beaucoup de choses, c'est pas que dans la tête, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Et moi, comme exemple, c'est tout bête, mais mes enfants m'avaient offert un saut à l'élastique, j'en rêvais depuis très longtemps, je pouvais pas le faire, parce qu'il y a un poids limite. Donc oui, le poids nous empêche de faire énormément de choses.
Quel regard la société porte-t-elle, selon vous, sur les personnes souffrant d'obésité ? Et quel regard portez-vous sur la société qui juge les personnes obèses ?
Le regard que la société porte sur les obèses, en général, c'est plutôt négatif. On pense que les personnes obèses sont des gens plutôt mous, qui n'ont pas de volonté, et qui sont, plutôt dans la passivité et dans la sédentarité. Voilà, donc c'est tout ce qui ramène à « ils mangent trop », ils n'ont qu'à manger moins et faire du sport. Voilà. Ça se résume souvent à ça. C'est le résumé
encore
de ça.
Encore le mot manger, c'est gentil. Souvent, c'est bouffer.
Ah ben oui, oui. Ben, c'est-à-dire que si un jour, vous êtes en train de manger un hamburger dans votre voiture sur un parking, les regards de gens qui vont passer à côté de vous sont complètement différents. Si vous êtes obèse ou si vous avez un poids standard, en fait, c'est assez impressionnant.
Oui, moi, je pense pareil que toi. Je pense pareil que toi, Corinne. C'est vraiment, c'est compliqué, le regard des autres. Ils ont un jugement parce qu'ils ne connaissent pas la maladie. Enfin, ils ne savent pas que c'est une maladie, en fait. Il faudrait qu'on les éduque, qu'on leur explique pour que ça puisse faire changer les mentalités. Et je pense que nous, on est des adultes, donc on est capable de recevoir et d'encaisser. Mais je pense aux plus jeunes, au collège, au lycée, où il y en a beaucoup qui ne supportent pas, qui sont très blessés, qui se renferment encore plus sur eux-mêmes, et du coup qui prennent encore plus de poids parce qu'ils ont un mal-être énorme.
Petite pause musicale avec Calogero, c'était mieux après.
Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après. Par heure, combien d'instants loupés par peur, parce qu'on ne se sent jamais prêt à tout remettre au lendemain. Les mots, les courriers ou les trains, on devient nos propres barrières. À force de trop hésiter, à force de tout éviter, l'occasion va passer, on s'empêche d'avancer. Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après. La peur est une sale habitude qui fait du pire une certitude, de tout le projet des regrets. Le doute est une contrefaçon qui déguise les possibles en non et tous les plus tard en jamais. À force de trop hésiter, à force de tout éviter, va passer, la passion va casser. Et finalement tu t'es lancé, sous la pluie tu l'as embrassé, et c'était mieux après. Demain est un joli pays, à chaque minute tu le franchis, et chaque seconde est une frontière. La nostalgie est une manie qui fait d'hier un aujourd'hui. Elle met ta vie en marche arrière, et on se noie dans des verres d'eau, à trop tourner autour du pont. On pourrait, s'il le faut, repartir à zéro. Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après.
C'était mieux après sur Radio Calade dans Parlons équilibre, et nous recevons ce soir Corinne et Nathalie, avec qui nous discutons de la maladie de l'obésité. L'obésité est une pathologie sérieuse, on est bien d'accord, ce n'est pas un choix d'être obèse, et pourtant on continue de stigmatiser les personnes qui souffrent d'obésité et subissent parfois des agressions, des insultes et des remarques grossophobes. 72% des personnes en obésité disent avoir un jour été victimes de racisme anti-gros. L'avez-vous été, mesdames ?
Oui. Oui. J'en parlais tout à l'heure, voilà, des regards sur quand on est en train de manger quelque chose, où qu'on soit, et on est jugé quelque part. Alors après, ça touche ou ça touche pas, mais oui. Mais moi, surtout, ce qui a été difficile pour moi, c'est des remarques de la part du milieu médical. C'est-à-dire que le commun des mortels, quelqu'un qui n'a pas étudié la médecine, il ils ne savent pas forcément que c'est une maladie. Donc, je peux entendre, je peux comprendre qu'on ait la bêtise de juger, de croire qu'il suffit de s'arrêter de manger et de faire du sport pour perdre du poids. En revanche, tout ce qui est milieu médical, pour moi, c'est doublement violent parce qu'ils sont censés savoir, ils sont formés, ils doivent savoir ce que c'est que l'obésité et qu'en tant que malade, on a droit au respect. Et ça va de la personne qui vous fait une échographie abdominale et qui souffle, soupire parce qu'il n'arrive pas à voir, parce qu'il y a beaucoup de graisse à traverser. Donc, c'est pas forcément dit, mais c'est très, très compris, en tout cas. Jusqu'à une médecin du travail qui a eu l'amabilité de me dire que si je n'étais pas capable de faire un régime, je n'avais qu'à aller me faire opérer. Voilà. Donc, on n'est pas trop dans la bienveillance. Et...
Bien sûr. Voilà. Moi, je trouve que les conséquences peuvent être dramatiques. Hein. On peut aller jusqu'à ne plus aller consulter un médecin parce que le médecin a une remarque blessante.
Moi, je n'ai pas trop connu cette grossophobie vis-à-vis des autres, mais parce que je l'ai complètement masquée par l'humour. J'ai toujours tout pris à la rigolade, dans l'exagération. Pour cacher tout ça, en fait, je me suis mise à faire du théâtre, pareil, pour jouer un personnage et cacher tout ça, en fait. Et l'humour, souvent, dans une bande de copains, le gros ou la grosse, c'est la bonne copine, le bon copain, et ça reste là. Et moi, j'ai vraiment tout caché dans l'humour.
Il y a donc double peine, c'est ça? À votre avis, mesdames, comment faut-il désamorcer cette grossophobie?
L'humour est important, ça c'est clair. Mais il me semble que quand on est obèse, on a un peu tendance à en faire beaucoup trop dans l'humour et à être souvent beaucoup dans l'autodérision en se disant « je suis bien meilleure pour me moquer de moi-même que les autres, donc autant le faire et couper l'herbe sous le pied des personnes mal intentionnées ». Donc l'humour est important, mais il faut, je pense, marteler des informations sur le fait, redire à tout le monde, c'est une maladie, ça nécessite, c'est une maladie pour toute la vie, contre laquelle il va falloir se battre toute sa vie, et qu'à ce titre-là, on doit être considéré comme des personnes, des patients, des patientes qui ont besoin de soins, et qui, comme n'importe quelle personne souffrant d'une maladie, à qui on doit le respect. Donc, que ça soit de la part des médecins, mais de la part du tout venant. Et donc, je pense que c'est en effet de la communication à grande échelle, expliquer.
L'obésité est une maladie chronique.
Oui, chronique, qui peut engendrer plein d'autres choses derrière. Le diabète,
bien sûr.
Des problèmes au niveau des articulations, enfin, énormément de choses. Une petite chose que je rajoute, au cas où aussi, les médecins ont un petit peu tendance à aussi tout mettre sur le dos de l'obésité. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez genre un ongle incarné, il faudrait perdre du poids. Ça ira mieux, vous allez voir. C'est assez courant. Donc voilà, il faut expliquer que c'est une maladie, que ça peut avoir des conséquences très importantes, et donc tout faire pour ne pas arriver, pour ne pas l'avoir. Mais une fois qu'on y est, c'est de la bienveillance à tous les étages dont on a besoin.
Bien sûr. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où rien n'est pensé pour les gros. Et c'est aussi peut-être de mettre en place des stratégies qui impliquent la société tout entière. Mettre en place des équipements, par exemple, adaptés aux personnes obèses et en surpoids, dans les transports en commun, dans les hôpitaux également. Je sais pas, qu'en pensez-vous,
mesdames ? Moi, je dirais même de démarrer dès le collège. On apprend aux enfants dans l'éducation civique à ne pas être raciste, à accepter les autres. On leur parle des risques liés à Internet. On leur parle des risques sexuels. On leur apprend les risques sexuels. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être mettre ça dans des programmes, simplement pour expliquer à tous ces jeunes ce qu'est l'obésité, que c'est une maladie, qu'elle a des conséquences importantes. Je mettrai ça au programme de l'éducation civique, je pense.
Parce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est parfois difficile pour les personnes obèses de s'intégrer encore dans des groupes?
Oui, complètement. Bien sûr. On n'ose pas. On n'ose pas rentrer dans un groupe. Alors, une association, c'est différent. Là, nous, on fait partie d'une association et là c'est complètement différent. Mais dans un groupe déjà existant, non, moi, je ne pourrais pas m'y intégrer, c'est sûr.
Alors moi, par contre, j'y vais, je fonce.
Oui.
Voilà. Je rentre dans le tas et ça se passe bien, mais je peux l'entendre. Je peux entendre que c'est difficile de franchir le cap, mais on peut y arriver, mais c'est pas facile. Et souvent, justement, en fonction de son vécu, on peut se renfermer et ne pas apparaître en public. Alors, moi, j'y vais, je fonce dans le tas, mais par contre, je ne veux pas qu'on me voie. Donc, je suis ravie d'être à la radio.
Oui.
Mais par exemple, je refuse d'être sur les photos. Voilà, donc il y a quand même un petit quelque chose qui coince. Mais je peux en parler très librement. Mais je n'ai pas forcément, j'ai pas envie qu'on me voie. Je n'ai pas envie que mon image soit diffusée, soit vue. Voilà, c'est ma limite. Et oui, bien sûr que c'est lié à mon poids, ça, c'est évident.
Que vous n'assumez pas ?
Eh bien, que bizarrement, je pense assumer, mais me voir en image, ça m'est insupportable, vraiment.
Nathalie, vous avez été opérée d'une chirurgie bariatrique.
Oui.
Aujourd'hui, comment vous sentez-vous ? Comment avez-vous vécu les changements ? Vous avez perdu du poids ? Combien ?
Tout à fait. Donc, j'ai été opérée d'une sleeve en mars 2021.
Oui.
Aujourd'hui, j'ai perdu 45 kilos, donc en un an et quelques mois. Ça ne m'a pas du tout angoissée, cette opération. Ce n'était pas une première idée de ma part, mais quand j'ai vu le chirurgien, toutes les pathologies qui commençaient à devenir de plus importantes,
oui.
L'hypertension, le diabète, ma thyroïde qui ne se régulait jamais, l'apnée du sommeil, dormir avec une machine, enfin, tout ça sont des conséquences de l'obésité. Ça commençait à être pesant et donc il y avait un risque d'AVC. Donc, quand j'ai entendu ce mot AVC, j'ai vraiment pris peur et je me suis lancée dans l'opération. J'ai été aiguillée vers votre association par le chirurgien, donc ça m'a beaucoup aidée. Je n'ai pas éprouvé le besoin d'un suivi psychologique à aujourd'hui, juste une hypnothérapeute. Je ne me vois pas comme je suis.
Donc
certes, j'ai perdu des kilos, mais
je ne me reconnais pas du tout
et je ne me vois pas aujourd'hui comme je suis. Je ne vais pas aller dans un magasin, je ne vais pas trouver la taille de mes vêtements. Je regarde des photos, je ne me reconnais pas. Et en plus, les photos que je vois il y a un an avec 45 kilos de plus, je me dis, mais j'étais comme ça. Je ne me voyais pas comme ça. Et ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Mais bon, je suis très heureuse d'avoir fait cette opération. Ma santé va beaucoup mieux. La priorité, c'était ma santé. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Après, psychologiquement, il y a encore du travail à faire, mais on va y arriver.
Vous êtes toutes les deux adhérentes à l'association Équilibre et Moi. En quoi cette association vous a aidée ?
Alors, moi, ça a été rencontrer des personnes qui souffrent du même problème que moi et avoir accès à plein d'activités diverses et variées, donc connues comme de l'activité physique, mais du coup adaptées au problème de l'obésité, aux besoins, à notre corpulence. Donc, avec des profs extrêmement bienveillants et qui prennent soin de nous et qui entendent chacun de nos mots, parce que j'ai l'habitude de dire on est la bande de déglingués, on a tous un truc de travers, donc ils tiennent compte de tout ça. Et puis faire d'autres activités, j'ai un souvenir merveilleux d'une initiation à l'équi-coaching qui m'a bouleversée et qui... Nathalie était avec moi d'ailleurs. Et donc voilà, ça a été une très belle... J'aurais essayé ça. Donc ça, c'est... Merci, un grand merci. C'est formidable. Des bonnes recettes que nous enseigne Nadjette. Des conseils diététiques, des accompagnements psychologiques, plein de choses qui sont faites dans la bienveillance avec des personnes qui se connaissent plus ou moins, mais surtout qui sont pas là pour juger, qui sont là pour prendre soin d'eux. Et c'est vraiment ça, c'est prendre soin de soi dans tous les domaines possibles et imaginables. Il n'y a pas que l'alimentation, il n'y a pas que le sport, il y en a plein. Il y a de la sophrologie, c'est vraiment... Et puis de l'information et qui nous intéresse. Donc ça, c'est vraiment important.
Oui, tout à fait. C'est vraiment de la bienveillance, une bonne ambiance. Après, on apprend beaucoup de choses et surtout, on ne se retrouve pas seul. On se dit qu'on n'est pas tout seul dans la même situation. On peut échanger sur des sujets avec lesquels on ne pourrait pas échanger avec d'autres personnes qui ne sont pas dans notre cas, en fait. Alors après, le petit regret que j'ai, moi, c'est que je n'en ai entendu parler qu'après l'opération. J'aurais beaucoup aimé prendre connaissance et venir dans cette association avant d'être opérée. Ça m'aurait aussi apporté une certaine aide avant l'opération. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter. qu'on soit opéré ou pas, il ne faut pas hésiter.
Corinne et Nathalie, merci pour vos témoignages. Parlons équilibre touche à sa fin. À très bientôt sur Radio Calade 100.9. Parlons équilibre.